Est-il vrai que les milliards de personnes qui vivent et meurent sans avoir accepté Jésus-Christ sont perdues à jamais? Si oui, cela inclurait-il ceux qui n'ont jamais entendu son nom? Qu'en est-il des nourrissons qui sont morts avant d'être assez âgés pour comprendre ce que cela signifie d'accepter le seul nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé? Qu'en est-il si leurs parents étaient hindous, musulmans, athées ou simplement non intéressés par la religion? Y a-t-il un espoir pour eux ou d'ailleurs pour leurs parents? Qu'en est-il de l'avertissement de l'apôtre Paul, selon lequel même Satan a des ministres qui se déguisent en ministres de justice? Comme il l'a dit, certains adorent un autre Jésus et reçoivent un autre esprit et un autre évangile. Cela signifie-t-il que tous ces gens sont perdus? Quelle que soit la sincérité d'une personne, toutes les différentes confessions et dénominations qui enseignent des doctrines très diverses avec des approches radicalement différentes, peuvent-elles toutes avoir raison? Toutes ces personnes séduites qui ignorent la vérité sont-elles perdues à jamais? Dieu est-il juste? Aime-t-il tout le monde? Ou seulement une minorité? La réponse surprenante vient directement des pages de la Bible. Alors restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain, où nous ouvrons les pages de la Bible pour trouver des réponses aux grandes questions de la vie. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions suivantes, avec toutes leurs ramifications. Dieu aime-t-il tout le monde? Donne-t-il à chacun une opportunité équitable? Les personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ sont-elles perdues à jamais? L'apôtre Jean cite les paroles de Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est probablement le verset le plus cité de toute la Bible. Mais combien de personnes le comprennent? Combien comprennent que Jésus a dit que son Père n'aime pas seulement quelques personnes, mais le monde entier? Et il poursuivit en disant, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le monde n'est pas une référence à la planète Terre, mais plutôt aux personnes qui l'habitent. Mais il y a aussi ce verset clé qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Nous le trouvons dans le 4e chapitre des Actes. Le contexte est l'occasion où Pierre a invoqué le nom de Jésus-Christ pour guérir un homme infirme. Le résultat a été que Pierre et Jean ont été traînés devant le conseil. Nous reprenons l'histoire à partir du verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité les morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Puis, au verset 12, en référence au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous sommes donc face à un dilemme. Quelle que soit la façon dont vous faites le calcul en gardant ce passage à l'esprit, il y a toujours eu plus de non-sauvés que de sauvés. Pensez aux milliards de personnes qui ont vécu et sont mortes sans même connaître la Bible ou son message. Pensez aux personnes qui sont mortes en Amérique du Nord ou du Sud ou sur une île lointaine avant l'avènement de Jésus-Christ. Ne font-elles pas partie du monde? Sont-elles perdues à jamais? Dieu est-il si impuissant qu'il est incapable de sauver le monde qu'il dit aimer? L'adversaire est-il plus fort que Dieu? Si ce n'est pas le cas, cela nous conduit aux inévitables questions. Dieu est-il juste? Fait-il exception de personne? Est-ce que tout le monde a ou aura une opportunité réelle et équitable d'obtenir le salut? Un soir, nous avons reçu un dépanneur chez nous et nous avons entamé une discussion sur ce sujet. Il soutenait que si quelqu'un à l'autre extrémité de la terre voulait vraiment connaître Dieu, Dieu l'atteindrait d'une manière ou d'une autre. Non seulement c'est illogique, mais c'est contraire aux Écritures. Notez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, versets 13 et 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'impartialité de Dieu est une question à laquelle beaucoup se sont heurtés. Les théologiens tentent d'expliquer cette énigme de nombreuses façons. Mais toutes les explications provenant du christianisme traditionnel manquent la cible. Comment se fait-il que les ecclésiastiques et leurs dénominations ne voient pas ce qui est évident dans la Bible lorsqu'il s'agit des millions de personnes non sauvées, dont beaucoup n'ont jamais entendu parler de Jésus? La réponse est complexe, mais laissez-moi vous donner deux réponses bibliques simples. La première est la suivante. Dieu n'appelle pas tout le monde en ce moment. Laissez-moi le répéter. Dieu n'appelle pas tout le monde en ce moment. Je comprends que ce n'est pas ce que la plupart d'entre vous ont entendu dire, mais cette vérité se trouve dans la Bible. Cela peut vous choquer, mais Jésus nous dit clairement que seules les personnes appelées peuvent venir à lui. Lisez-le par vous-même. Si vous n'avez pas de Bible en main, notez ces versets et vérifiez-les plus tard par vous-même. Comme nous le disons toujours ici au Monde de Demain, ne nous croyez pas simplement parce que nous le disons, croyez-le parce que vous le lisez dans la Bible. Le voici dans Jean 6 et le verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous savons qu'un principe est particulièrement important, surtout lorsqu'il est répété, et c'est exactement ce que nous voyons ici. Jésus répète cette vérité frappante au verset 65. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et ce n'est pas tout, car il existe de nombreux autres passages qui révèlent la même vérité. Par exemple, beaucoup de gens savent que Jésus parlait souvent en parabole. Mais combien comprennent la raison? Quel était le but de parler en parabole? Mon instructeur de l'école du dimanche pensait qu'il le faisait pour en faire comprendre le sens à une bande de pêcheurs et de bergers. Était-ce exact? Pouvons-nous le savoir? La réponse est oui, nous pouvons le savoir, car les propres disciples de Jésus lui ont posé cette question. Le croirons-nous? Lisez Matthieu 13 et commencez au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Voilà la question. Maintenant, quelle est la réponse? La voici directement de la bouche de Jésus. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Marc relate également le même incident et ajoute quelques détails supplémentaires. Reprenons dans Marc 4, à partir du verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Jésus explique alors à ses disciples la parabole du semeur. Dans cette parabole, les graines sont semées. Certaines tombent le long du chemin, d'autres sur un endroit pierreux et peu fertile. Certaines des graines commencent à pousser, mais sont étouffées par les épines. Et d'autres tombent sur une bonne terre, où elles germent et produisent des quantités variables de fruits. Puis, après avoir déclaré quelques paraboles supplémentaires, nous lisons le commentaire de Marc souvent ignoré au verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. La simple vérité biblique est que Dieu n'appelle pas tout le monde à l'heure actuelle. Ce qui échappe malheureusement aux membres du clergé comme aux laïcs. Pour rappel, la Bible nous dit, et raison numéro 1, Dieu n'appelle pas tout le monde en ce moment. La raison numéro 2 est « Dieu ne donne son esprit de compréhension qu'à ceux qui lui obéissent. » Prêcher au nom de Jésus-Christ était une entreprise périlleuse au 1er siècle et dans de nombreuses régions du monde depuis lors. À une occasion, les premiers apôtres ont été jetés en prison. mais miraculeusement libérés par un ange qui leur a ordonné de retourner au temple et d'annoncer les paroles de cette vie. Ils ont de nouveau été convoqués devant le conseil, où nous reprenons le récit dans Acte 5, à partir du verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » La réponse des apôtres était une réprimande cinglante, à laquelle le souverain sacrificateur et son entourage n'étaient pas habitués. Pour qui se prenaient ces hommes sans éducation venus de Galilée ? Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Remarquez maintenant cette déclaration que l'on trouve au milieu de ce récit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Ce que Pierre et les autres ont fortement laissé entendre, c'est que ces chefs religieux n'obéissaient pas à Dieu et n'étaient donc pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a là une puissante leçon pour nous. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne recevrons pas le Saint-Esprit. Et c'est le Christ vivant en nous, par la puissance du Saint-Esprit, qui ouvre notre esprit à la compréhension. Lorsque le prophète Daniel a voulu comprendre la chronologie des visions qui lui ont été données, il a reçu des instructions. Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et remarquez ceci, aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » La méchanceté ne se limite pas à la toxicomanie, à l'immoralité sexuelle, au meurtre et au vol. Toutes ces choses sont mauvaises. Mais au cœur de la méchanceté se trouve le déni et la rébellion envers Dieu et sa volonté, telle qu'elle est exprimée dans sa loi. Comment se fait-il que les gens ne puissent pas comprendre que la nouvelle alliance, au lieu de supprimer la loi, la rend plus stricte? Jésus n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a prononcé son célèbre sermon sur la montagne. Lisez-le vous-même dans Matthieu au chapitre 5, versets 17 et 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le ciel et la terre ont-ils disparu? Alors pourquoi tente-t-il de réfuter sa déclaration si claire? L'une des tactiques qu'ils utilisent consiste à dire que l'expression « tout est accompli » signifie que la loi a été abolie à la crucifixion du Christ, que tout a été fait à ce moment-là. Mais cela correspond-il au contexte de sa déclaration? Pas vraiment. Au lieu de supprimer la loi, il montre qu'il attend davantage de nous. Il nous impose des normes plus élevées. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il poursuivit en donnant des exemples de ce qu'il voulait dire. Il a rappelé le sixième commandement qui interdit le meurtre, mais il a ensuite montré qu'avoir de la haine dans son cœur est l'esprit du meurtre. Il dit dans les versets 27 et 28 « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Y a-t-il quelqu'un qui pense que la lettre de la loi, éviter l'acte même d'adultère, est plus difficile à respecter que l'esprit de la loi tel que Jésus l'a expliqué? Pourtant, nous constatons une attaque constante de la loi de Dieu par ceux-là même qui affirment croire en Jésus. Il n'est pas étonnant que Jésus ait réprimandé les gens de son époque, comme nous le lisons dans Luc 6, au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, signifiant Maître, Maître, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La Bible est claire à ce sujet. au lieu de supprimer la loi de Dieu, Jésus l'a rendue plus stricte et, par la puissance de son esprit, elle devient notre mode de vie. C'est la voie de l'amour de Dieu, du vrai amour authentique. Comme il est dit dans 1 Jean 5, au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et remarquez Hébreux 10, au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Revoyons encore une fois notre deuxième point. Dieu ne donne son esprit de compréhension qu'à ceux qui lui obéissent. Pourquoi ce point est-il si important pour comprendre l'amour de Dieu pour toute l'humanité? Cela explique pourquoi tant de personnes ne parviennent pas à comprendre l'équité de Dieu et l'espoir qu'il offre à des millions de personnes qui semblent perdues aujourd'hui. Le plan magistral de Dieu est révélé dans les pages de la Bible. Malheureusement, les traditions humaines ont remplacé les statuts de Dieu qui révèlent un plan magistral qui donne de l'espoir pour des millions de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont morts trop jeunes pour accepter le salut par le Christ et ceux qui ont simplement été séduits. La Bible nous apprend qu'il existe des jours saints et des fêtes que Jésus, ses apôtres et d'autres observaient. L'histoire confirme également que l'Église chrétienne du 1er siècle observait ces jours, des jours très différents des fêtes du christianisme traditionnel d'aujourd'hui. Malheureusement, les jours que Jésus observait ont été négligés et sont à peine connus, même s'ils se trouvent dans les pages de la Bible. En voici une liste, ainsi que quelques-unes des nombreuses références dans le Nouveau Testament à leur sujet. La Pâque, la fête des pains sans levain, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Notez que ce ne sont là que quelques-unes des Écritures. Il y en a beaucoup d'autres auxquelles le Nouveau Testament fait référence pour ces jours. Maintenant, à titre de comparaison, dressons la liste de tous les endroits où l'on trouve les fêtes populaires suivantes dans la Bible. Le Carême, les Pâques, la Toussaint et Noël. Quelqu'un voit-il un problème ici dans cette énumération ? La Pâque nous rappelle le sacrifice du Christ, qui a payé l'amende de nos péchés. Les jours des pains sans levain viennent après la Pâque et nous montrent quelle devrait être notre réponse à ce sacrifice. Remarquez dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pentecôte est la fête suivante et elle nous rappelle que nous avons besoin que le Christ demeure en nous, par son Saint-Esprit, écrivant la loi de Dieu dans nos cœurs et nos esprits. La fête des trompettes est la suivante dans Lévitique 23. Sa signification dans le Nouveau Testament est établie en recherchant les Écritures qui font référence au son des trompettes. Nous découvrons que cette fête fait référence aux sept trompettes que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, comprenant le son de la septième trompette qui proclame le retour du Christ pour régner sur toute la terre. Le jour des expiations suit de près et nous enseigne qu'il n'y aura jamais d'harmonie ici-bas tant que Satan sera là. Ce jour décrit le retrait de son influence sur l'humanité pendant 1000 ans. Ce règne de 1000 ans est représenté par ce que l'on appelle la fête des tabernacles. La septième et dernière fête dans le plan de Dieu est appelée le dernier grand jour. Et c'est un grand jour. Elle annonce un moment très précis dans l'avenir, lorsque Dieu ressuscitera à la vie, c'est-à-dire à la vie physique, tous ceux qui n'ont jamais entendu le véritable message de l'Évangile. Ou s'ils l'ont déjà entendu, ils ont été tellement séduits par Satan qu'ils n'ont pas pu le comprendre. Cette fête préfigure le moment où des milliards de personnes auront leur première véritable occasion de choisir la voie de Dieu. Allez à Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est après le règne millénaire du Christ. et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les livres qui sont ouverts sont les livres de la Bible, qui ont été fermés à la compréhension des esprits de ces personnes. Notez également que le livre de vie est ouvert et non fermé. Jésus a fait référence à ce temps de jugement dans Matthieu 11, versets 23 à 24. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Notez qu'il ne s'agit pas d'une seconde chance, mais d'une véritable première chance lorsque leur esprit sera ouvert. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une autre vidéo du monde de demain. Et si vous souhaiteriez recevoir un exemplaire de notre brochure « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ?», cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.